messieurs les producteurs de cinéma sonore, regardez-moi, regardez-moi encore. La tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler Europe et de la région.
Messieurs les producteurs de la télé à vision, regardez-moi, regardez-moi, voyons.
Ce matin, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai Daniel Leca, vice-président en charge de l'Europe, de la stratégie territoriale des politiques contractuelles, également président du groupe UDI. Vous êtes également élu d'opposition à Compiègne. Bienvenue.
Merci. Bienvenue. Merci.
On va parler de l'Europe parce que c'est un de vos portefeuilles. Vous avez également l'enseignement supérieur. On vous voit très régulièrement dans des conseils d'administration de lycées. On peut voir dans votre déclaration de la haute autorité que vous êtes dans de nombreux conseils d'administration. On fait un petit point rapide sur d'abord l'enseignement. C'est quoi ce portefeuille?
Alors, je l'ai perdu.
D'accord.
En réalité, on a redéfini les fonctions de l'exécutif. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à m'occuper de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'était un beau portefeuille sur lequel je me suis beaucoup investi pendant 3 ans. Et tout l'enjeu, c'était effectivement de faire de la région Hauts-de-France une région où les étudiants sont heureux d'étudier, où on a des laboratoires de recherche qui sont innovants et qui nous permettent de faire découvrir des choses nouvelles et donc de faire avancer la connaissance, mais aussi d'attirer des entreprises qui trouveront demain dans notre territoire et bien tout ce qu'il faut pour réussir leur recherche. Je l'ai perdu, mais je l'ai partagé avec une autre isarienne, puisque ce sera Manuel Martin qui va récupérer cette délégation et que je vais évidemment accompagner au début pour que tout ça se passe, cette transition se passe très bien.
Donc là, vous êtes à 100% sur l'Europe.
Europe et aménagement du territoire, c'est-à-dire en gros toute la lecture territoriale, les schémas territoriaux et une réflexion sur comment on aménage notre territoire de manière équilibrée. C'est l'application de la loi zéro artificialisation nette, c'est une réflexion plus globale sur comment on s'assure que dans notre territoire, entre la ruralité et les villes, eh bien, on ait un équilibre qui permette à chacun de bien vivre et de mieux vivre, notamment avec les contraintes qui sont très importantes en matière d'environnemental, par exemple.
Peu d'habitants le savent, mais du coup, l'Europe finance certains projets européens, certains projets régionaux. C'est quoi l'articulation qu'il y a entre la région Hauts-de-France et l'Europe ?
Alors, un des rôles particuliers, et ça c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, c'est que la région, elle est autorité de gestion des fonds européens. Alors, dit comme ça, ça fait très technocratique, mais en réalité, on a une enveloppe qui est une enveloppe dite de politique de cohésion qui permet de corriger les écarts entre les régions européennes et pour s'assurer qu'on a un développement équilibré à l'échelle européenne. Et quand on regarde dans le détail, pour nous, c'est la politique FEDER. On l'entend souvent FEDER, FEADER ou LEADER. Ce sont des mots qui reviennent de temps en temps, pour le coup, sur des grands panneaux qui sont les panneaux qui annoncent les travaux, eh bien là, en réalité, nous, on gère, au nom de l'Union européenne, l'ensemble de ces fonds. Donc, on a 1,3 milliard d'euros qui doit être géré pour la période 2021-2027, par exemple. Et sur cette enveloppe, eh bien, nous sommes là pour gérer les dossiers, les instruire, accompagner les porteurs de projets et ensuite les faire financer sur fonds européens. Et donc, tout l'intérêt pour la région d'être, finalement, ce trait d'union entre l'Union européenne et les territoires, c'est qu'on est capable d'être cohérent en identifiant les meilleures sources de financement. Parfois, c'est principalement des fonds région et parfois c'est beaucoup de fonds européens.
Donc là vous distribuez l'argent de l'Europe, mais est-ce qu'il y a un contrôle de l'Europe? Comment ça se passe? Alors déjà sur le FEDER, le Fonds européen de développement régional, comment on postule? C'est quel type de personnes qui peuvent postuler à ce fonds?
Alors d'abord il y a eu un gros travail de dialogue, d'échange avec l'État et la Commission européenne pour définir ce que l'Europe souhaitait. C'est bien logique, c'est l'argent dont elle dispose pour mettre en œuvre sa politique. Dans une discussion qu'on a avec l'Union européenne et l'État, on définit quelles sont les grandes lignes prioritaires. Sur la base de ce premier dialogue, nous, on mène une grande concertation sur l'ensemble du territoire régional. On a essayé d'identifier quelles étaient les thématiques, les enjeux sur lesquels on sentait qu'il y avait à la fois du besoin, des projets à financer et de fait qui sont structurants pour notre territoire. Sur cette base-là, nous, on construit une stratégie régionale où on dit, voilà, par exemple, nous, on sait très bien que sur la question REV 3, c'est-à-dire la troisième révolution industrielle, c'est un enjeu majeur de transition. Eh bien, on l'a inscrit dans notre stratégie. Sur cette base-là, ensuite, c'est tout simple, on définit des enveloppes. C'est comme un grand classeur en réalité, vous avez des grandes thématiques à l'intérieur desquelles vous avez des intercalaires et des fiches projets. Et donc nous, on va chercher les projets qui permettent effectivement le développement régional. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Nous, on est la porte d'entrée unique pour les fonds FEDER, mais pas seulement. Et une fois qu'on a, d'une certaine manière, la prise de contact qui est faite avec le porteur de projet, entreprise, association, évidemment collectivités locales par exemple, eh bien nous on est là pour les prendre par la main, pour les aider à monter leurs projets et s'assurer qu'évidemment ils rentrent dans les clous de l'Union européenne, parce que quand on ne fait pas les choses totalement dans les règles ou totalement dans le respect des procédures voulues par l'Union européenne, on peut être sanctionné effectivement et on doit rendre l'argent. Donc nous on est là évidemment pour être le plus carré possible, et c'est vrai que de temps en temps, faut qu'on le dise, on passe un peu pour les empêcheurs de tourner en rond, on dit mais la région ils sont durs, ils nous empêchent de faire ce qu'on veut, mais finalement c'est une sécurité pour tout le monde.
Parce que le cadre du coup est dur.
Le cadre est contraignant, mais j'allais dire c'est aussi un gage de transparence, c'est un gage d'efficacité, c'est un gage aussi de confiance. Parfois on a tendance à dire qu'en France c'est un peu à la bonne franquette, ça arrive parfois effectivement que les procédures soient pas totalement carrées, mais là au moins avec l'Union européenne, il n'y a pas de doute, c'est très précis et il ne peut pas y avoir de faille dans le système.
Alors des acronymes il y en a beaucoup, il y a FEDER, il y a le FSE+, le FTJ, le FEADER, le LEADER, le FEAMPA, et encore on parle pas de tout ce qui est Interreg, qui est un autre dimensionnement.
C'est
quoi
coopération,
oui. le plus simple c'est quoi? C'est en fait on a un projet, on contacte directement la région et la région nous oriente vers le projet, la case dans laquelle on pourrait rentrer.
C'est exactement ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dispositifs, et ça, là, on parle que de l'échelon européen. Et si on rajoute les échelons départementaux, enfin intercommunaux, départementaux, régionaux et l'État, il y a énormément de dispositifs possibles. Alors, il y a des cofinancements qui existent, c'est-à-dire que on peut être plusieurs à partager, bien sûr, un projet et donc à financer le projet. Mais ça, c'est vrai que ces différents acronymes peuvent faire peur. Nous, on est là justement pour simplifier les choses. Il y a une porte d'entrée, c'est la région. Il y a une adresse mail, europe@hauts-de-france.fr. Quand on envoie son petit mail pour dire voilà, j'ai un projet, je ne sais pas si je peux le financer sur fonds européens, mais en tout cas voilà la nature du projet, et bien on le prend tout de suite en compte, on regarde. Quand ça peut être financé sur fonds européens, et bien on rentre dans le tuyau européen. Quand ça ne peut pas l'être, ou quand on estime, parce que le projet n'est peut-être pas assez important, peut-être trop petit, pas assez dimensionné sur effectivement les ambitions européennes, pas assez de coopération, et bien nous on est là pour dire, mais dans ce cas-là, il vaut mieux aller sur le fonds région ou il vaut mieux aller sur les fonds État, ou alors on donne le bon interlocuteur aux porteurs de projet. On est là aussi pour faire tout ce travail, ce qu'on appelle parfois un peu de manière technocratique l'ingénierie. C'est-à-dire comment on donne les moyens à un porteur de projet de ne pas se retrouver tout seul face parfois à des montagnes administratives. Donc on est là pour ça.
Ouais, ce qu'on entend souvent, c'est que l'Europe, c'est trop compliqué. Donc là, guichet unique.
On a simplifié, et ça c'est vrai que c'est une chose qui est quand même extraordinaire que l'Union européenne a voulu à un moment donné, c'était de confier aux régions la gestion de ces fonds. Et je vais dire quelque chose qui peut paraître un peu polémique, mais c'est vrai, quand l'État gère des enveloppes, alors c'est pas le cas du FSE par exemple, où il y a une partie, le FSE c'est le Fonds Social Européen, qui vient financer notamment beaucoup d'opérations de lutte contre le décrochage, par exemple des jeunes, qui vient financer des politiques de formation. Là ça fonctionne bien, parce que c'est aussi géré par l'État déconcentré. Par contre on a vu que sur certains fonds qui étaient gérés par l'État directement, l'État avait du mal à programmer, c'est-à-dire à dépenser l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins en contact, moins aux prises avec la réalité du territoire, et ça c'est vrai que la décentralisation d'une certaine manière, le fait d'avoir confié aux régions ce rôle de gestion des fonds européens a permis de considérablement améliorer le processus et aussi, il faut le dire, de rendre l'Europe plus concrète pour ceux qui bien sollicitent l'Europe pour financer son projet.
Après, il y a des subventions sectorielles. Le plus connu, c'est Erasmus+, pour les étudiants quand ils partent à l'étranger. Il y a Europe Créative pour la culture. Il y a Digital Europe pour les entreprises digitales pour créer du numérique. Il y a BOS européen également. Comment vous en sortez ? Comment on se forme quand on est élu ? Vous avez fait le tuilage avec le président ou la vice-présidente avant, ou comment ça se passe ?
Alors déjà, moi je suis un Européen convaincu, donc j'ai toujours été intéressé par les sujets européens. Il n'y a pas que le débat européen, il y a aussi ce que l'Europe met en place comme politique. C'est vrai que quand on regarde à la télévision, quand on écoute à la radio, on a toujours l'impression que c'est des débats très lointains, très politiciens d'ailleurs, dans la posture. Bon. Moi, j'ai toujours regardé plutôt l'Europe concrète, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait ? Et qu'est-ce qu'on voit, tout simplement, c'est que l'Europe, elle a aussi des politiques qu'elle mène, comme on a une politique industrielle en France, comme on a une politique de la recherche, de l'innovation, ou une politique d'enseignement supérieur, mais l'Europe a aussi ses politiques. Et vous en avez cité quelques-unes. Effectivement, l'Europe a son propre budget et elle mène des projets, des politiques public à l'échelle de l'Europe pour pouvoir effectivement être plus attractif, plus fort, effectivement de manière assez caricaturale, mais de manière plus indépendante aussi à l'échelle du monde. Et en l'occurrence, là vous en avez cité quelques-unes, moi j'en rajouterai une qui est importante, c'est Horizon Europe, c'est tous les programmes de recherche européens. Il est évident que même si la France est très puissante, la France a la chance d'avoir des laboratoires de recherche très performants, reconnaissons quand même qu'on est toujours plus fort quand on collabore avec d'autres laboratoires à l'autre bout de l'Europe qui ont des spécialités qui sont complémentaires et on est beaucoup plus puissant à cette échelle-là. Le rôle de l'Europe, c'est aussi ça, c'est de mener des politiques publiques à l'échelle de l'Europe qui nous renforcent collectivement.
Et alors comment on se forme quand on est élu ?
Moi, je suis parti d'un principe simple, c'est que vu que j'avais déjà cette appétence, je me suis plongé dans tout ce qui existait, dans toutes les notes qu'on a bien voulu me fournir. Je n'irai pas dire que je suis spécialiste, mais globalement, c'est un peu difficile de me prendre à défaut maintenant.
Quels sont les projets européens qui ont été mis en place dans le Compiénois, peut-être les derniers qui ont été mis en place ?
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on raisonne en termes de période de financement. Donc là, on est dans la période 2021-2027. Alors c'est les incongruités ou les choses un peu étranges des programmations, c'est qu'on démarre maintenant en fait la programmation 21-27, on la commence en 2023 pour plein de raisons qui seraient trop longues à expliquer, mais globalement on commence maintenant à programmer les projets. Moi, il y a quelques beaux projets 2014-2021.
Donc en gros les projets ont été déposés en 2021, mais ils sont en cours d'instruction le temps que ça se passe.
Alors, ils sont déposés au fil de l'eau. Okay. Donc ça a commencé en fait en 2021, on a posé le cadre, 2022 on a lancé le programme. Et maintenant, on a fait remonter tout le maximum de projets, sachant que ça va continuer jusqu'en 2027, voire même un peu au-delà en réalité, parce que ça court jusqu'en 2029.
C'est glissant, quoi.
C'est toujours glissant parce qu'il y a des périodes de programmation qui se chevauchent. Et nous, après, là, notre rôle, c'est effectivement de voir si c'est plus pertinent de le mettre en 21-27 ou en 14-20, bon, pour faire très simple. Mais sur la période 14-21, on a des beaux projets ici, puisque à Compiègne, par exemple, on a l'extension de l'ESCOM qui a bénéficié des fonds européens, puisque ce sont 800 000 euros de fonds européens sur un budget global d'1,2 million. On a, par exemple, aussi un équipement petite enfance qui a été financé dans le quartier de la Prairie à Marnier-les-Compiègne. C'est là aussi, c'est 200 000 euros. On a des réhabilitations de logements à Estrées-Saint-Denis pour 500 000 euros. On a la plateforme d'innovation du groupe Pivert qui est à l'entrée de Compiègne qui a bénéficié d'1,7 million. On a la cantine pour l'école de Royallieu, 300 000 euros de FEDER. Vous voyez, donc des projets qui sont très très concrets et qui concernent le quotidien des habitants. Et moi, ce que je constate, c'est que là aussi, parfois, nous, on ne joue pas notre rôle, nous, les élus locaux. C'est qu'on ne fait pas savoir que c'est aussi du fonds européen. Alors, l'argent européen, c'est pas un argent qui sort de nulle part, hein, évidemment, mais c'est aussi la démonstration que les préoccupations du quotidien sont bien prises en compte par les institutions européennes, par notre intermédiaire évidemment, et que ça n'est pas déconnecté du tout des besoins du quotidien. À la fois, ce que je viens de citer, ce sont des étudiants, ce sont des jeunes familles, c'est l'attractivité du territoire. Donc c'est vraiment des réflexions globales qui sont menées sur des projets très concrets.
Ouais, il n'y a pas besoin que c'est un rapport avec l'Europe automatiquement. Il faut juste que c'est un rapport dans le développement local.
Exactement. Encore une fois, l'ambition du Fonds FEDER, c'est d'accompagner le développement territorial et de corriger les inégalités à l'échelle de l'Europe. Et donc, dès qu'un projet contribue au développement local, il peut être financé. Par contre, dès lors qu'on va sur le programme de coopération, et là aussi, il y a beaucoup d'opportunités de financement sur les programmes de coopération, là, il faut trouver un partenaire européen. Alors on en a plusieurs qui concernent vraiment le territoire des Hauts-de-France, parce qu'avec notamment avec nos amis belges, typiquement le France-Wallonie-Flandre, où dès lors qu'on a un partenaire belge, on peut faire financer son programme, son projet. Et en l'occurrence, si je prends un exemple dans notre territoire, on a une réflexion sur la politique touristique notamment qui a été financée par le Franche-Manche Angleterre. Il y avait un partenaire britannique avec lesquels on a pu partager, notamment avec des spécificités, c'était notre forêt, et on a pu faire financer un certain nombre de travaux, de réflexions, et par exemple, l'orangerie de Saint-Pierre-en-Chasse, par exemple, a été financée sur fonds européens. Et ça, dès lors qu'on a un partenaire européen, donc là, la dimension européenne est importante, eh bien, on peut se faire financer sur une logique de coopération. En d'autres termes, on échange des bonnes pratiques, on réfléchit comment une problématique qui a été rencontrée dans un territoire européen peut s'appliquer sur un autre, et comment, de fait, on fait collaborer les gens pour trouver des solutions nouvelles, plus fortes. Et c'est vrai que les fonds européens permettent ça.
Alors aujourd'hui, l'émission a lieu le 28 novembre. On avait un peu une problématique, c'est qu'à partir du 1er décembre, vu que les élections européennes auront lieu le 6 et 9 juin prochains, en fait, vous ne pourrez plus communiquer sur l'Europe, même à votre niveau. C'est pourquoi à votre niveau, alors que vous ne vous présentez pas aux élections européennes ?
Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore candidat.
Vous y pensez ? On vous rase dans le matin.
Je ne me rase pas souvent, pour ceux qui me connaissent. Non, plaisanterie mise à part. Oui, il y a une règle de communication. Une collectivité, lorsqu'elle est en compétence sur un sujet, en l'occurrence là sur les sujets européens, ne peut plus communiquer au nom de en l'occurrence là de l'Union européenne. Et donc on doit créer une distance. Moi, ça ne m'empêche pas, en tant qu'élu, de parler de l'Europe. Et d'ailleurs, je serai amené à donner des interviews dans la presse pour justement défendre ma vision et notre vision, de celle de l'UDI, de l'Union européenne, rappeler quelles sont nos convictions européennes. Pour autant, effectivement, au nom de ma collectivité, je ne pourrais plus m'exprimer. C'est dans le respect aussi du débat démocratique. On ne peut pas utiliser les moyens de la collectivité pour communiquer sur un enjeu qui est électoral. Et c'est 6 mois avant, et ça vaut pour toutes les élections. Ça vaut aussi pour les élections locales. Un maire n'est pas censé pouvoir communiquer, inaugurer des bâtiments 6 mois avant l'élection, parce qu'il ne peut pas utiliser les moyens de la ville pour communiquer sur ses réalisations.
Il y a le Rassemblement national à la région, hein, au conseil régional. C'est quoi leur vision à eux ? Est-ce que vous avez une vision différente ? Alors, ils sont contre l'Europe, mais ils siègent quand même à l'Europe. Est-ce que du coup, ça se ressent d'un point de vue régional ? Est-ce que ça bloque les projets ? Alors, vous, on rappelle que vous êtes élu d'opposition à Compiègne, mais il y a Martine Miquel qui est également élu à la région, qui travaille avec vous. Vous travaillez en bonne intelligence. Comment ça se passe du coup avec l'ERN sur la région ?
Alors avec le RN, d'abord sur les sujets européens, il faut dénoncer une contradiction absolue, c'est même une honte démocratique. On envoie au Parlement européen des gens qui sont payés par l'Europe pour détricoter l'Europe, ça c'est un premier problème. Deuxièmement, qui ne défendent pas ni notre pays ni notre région auprès des institutions européennes, or c'est aussi leur rôle en tant que parlementaire. Et moi, je reconnais aujourd'hui qu'il y a une sorte d'évolution. Et les électeurs devraient aussi prendre conscience qu'ils ont là des girouettes, y compris sur le projet européen, parce que pendant des années, ils nous ont expliqué que la mort, c'était l'Europe et que c'était la fin de la France dans sa capacité à se défendre elle-même et à être souveraine. Et dans le même temps, aujourd'hui, ils sont en train de changer de position parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas tellement à la mode et qu'il fallait être un peu plus rond sur le sujet. Donc maintenant, ils acceptent de participer aux instances. Ils acceptent qu'on reçoive l'argent européen tout en étant en permanence très critique. Donc il y a une espèce de position fluctuante, comme sur beaucoup de sujets sur le Rassemblement national. Mais je crois que l'opportunisme va finir par se voir un petit peu quand même.
On écoute un extrait de la programmation musicale de Graphite, c'est des nouveautés, ça s'appelle Gabriels, le titre s'appelle Glory. Alors on vous rassure, on a signé la charte de laïcité de la région Hauts-de-France. voilà, Glory, Gabriels, et on écoutera peut-être après le titre La Recherche, c'est une bande originale de Jean Claudric, et on se retrouve juste après ça.
Let me tell you a story of a girl up in glory. She had the world in her hand, even Hades was a fan. You can fake it for a little while when you're lying to yourself. You pretend and you try to hide from the cards that you've been dealt.
Ready, one.
Allez, Jean-Claude Ric avec ce titre La Recherche, c'est une très belle réédition en 45 tours, donc n'hésitez pas à la commander. Quelques infos locaux, avec notamment l'ouverture d'un magasin qui s'appelle L'Enseigne Normale, qui ouvre demain, mercredi 29 novembre, à Compiègne, ses boutiques. Alors j'étais faire un tour, je connaissais pas du tout L'Enseigne Normale, c'est une boutique qui vend, c'est un peu un espèce de discounter, alors ils ont pas le nom de discounter, mais ils vendent des produits de marque à des tarifs plutôt, eux ils disent que c'est exceptionnel. Donc ça ouvre demain et c'est 3 rue Solferino à Compiègne, ouverture 29 novembre. Est-ce que vous connaissiez cette enseigne? Vous avez entendu parler en conseil municipal?
Non, il faut que j'y aille.
On revient avec Daniel Leca pour parler donc de l'Europe et notamment de la région, puisque c'est vrai qu'on a eu il y a quelques temps un spot sur notre antenne qui parlait de l'Europe et de la région, qui parlait pas grand chose, il n'y a pas trop d'informations, qui nous renvoyait vers un site internet. Aujourd'hui, comment on dépose un dossier? Vous avez parlé du guichet unique, mais est-ce qu'il faut que l'association ou que l'entreprise ait automatiquement des salariés? Comment ça se passe? C'est quoi les règles?
Alors ça dépend. Ça dépend de chaque fonds en réalité. Dans le fonds FEDER, il y a plein de dispositifs différents. Il y a des appels à projets de nature différente. Vous avez des critères à respecter pour chaque enveloppe. Et pour avoir le plus de détails, il suffit de se connecter sur le site de la région, Europe en région Hauts-de-France. Et vous tapez ça sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Vous avez évidemment la réponse. Vous avez le lien vers le site et vous avez un document de mise en œuvre avec l'ensemble. Alors là, c'est un énorme document, mais vous avez des entrées thématiques, environnement, développement économique, recherche, en l'occurrence innovation, attractivité, territoire. Bon, vous avez plein d'entrées possibles et vous avez du coup chaque projet avec les critères qui dépendent de chacune des enveloppes. Donc c'est très très précis. On a essayé de faire le document le plus pédagogique possible, au-delà des petits pictos qui rendent la lecture un peu moins ennuyeuse. Il y a surtout l'information pour le porteur de projet. Nous, notre enjeu, c'est d'utiliser bien les fonds européens, de les utiliser de la manière la plus utile pour le territoire et de simplifier au maximum ce qui est complexe. Et notre rôle, nous, c'est ça, c'est de décomplexifier en faisant un accompagnement renforcé. C'est-à-dire qu'on ne va pas revoir les critères, les règles, parce que c'est des règles qui sont
pour
beaucoup définies par l'Europe et contraintes par tout un tas de règles, qui sont les règles des marchés publics, par exemple, mais pas que. Donc nous, notre but, c'est d'accompagner de manière peut-être plus forte les petites structures, que ce soit les petites collectivités, les associations qui sont parfois moins armées pour aller répondre à ce type de fonds, et évidemment les PME. Et l'avantage, c'est que l'Europe nous demande de privilégier les PME, et c'est l'essentiel des fonds, ça s'adresse aux PME. Donc nous, notre rôle, c'est de ça. On voit que ça a pu financer des très hauts niveaux d'investissement qu'on n'aurait pas pu faire avec juste le budget régional ou juste des subventions existantes. Donc nous, notre rôle, c'est de simplifier les choses avec un accompagnement renforcé, et on le fait pour tout, c'est-à-dire on le fait pour le FEDER, c'est-à-dire quand on tape à la porte de la région, c'est nous qui gérons, donc ça c'est plus simple, mais aussi c'est pour les politiques sectorielles, c'est-à-dire que si demain je prends un exemple de la recherche, puisque ici on est à l'UTC et que l'UTC a pu bénéficier d'un certain nombre de dispositifs européens, ben nous on a mis en place un fonds spécial, ce qu'on a appelé le FRAP, le Fonds Régional d'Accompagnement des Porteurs de Projets Européens, et c'est pour augmenter la force de frappe des porteurs de projets. On finance des heures d'experts pour aider le montage de projet, et en l'occurrence ça permet aussi, là aussi, d'être plus efficace et d'aider ceux qui ont parfois moins de moyens. C'est sûr qu'on ne va pas aider Total à monter son projet, hein, c'est pas le sujet, ils savent faire et ils le font bien. En revanche, un réseau associatif, en revanche une université qui a besoin d'être aidée, en revanche une entreprise qui a un beau projet de recherche et qui a envie de trouver un partenaire européen, mais nous on est là pour les aider.
Alors je passe régulièrement à la Pierre qui tourne, hein, qui est une biscuiterie à Couloisy, et ils ont eu justement de l'aide de la région pour installer leur biscuiterie. Donc en fait, si on a un projet de commerce, on peut se faire aider sur de l'achat de foncier. C'est quoi exactement? C'est sur quels critères?
Alors ça dépend, c'est surtout de l'achat d'investissement, c'est souvent de l'accompagnement d'investissement.
Donc des machines, par exemple.
Productif, par exemple. Effectivement. Donc, par exemple, là, on a eu une chaîne de montage d'une usine qui avait besoin d'être accompagnée parce que, en l'occurrence... il faut parfois donner le petit coup de pouce qui permet de débloquer aussi l'investissement des banques. Bon, voilà. Donc nous, on est là pour ça. Et c'est beaucoup d'investissements productifs principalement qui permettent d'améliorer la compétitivité ou de réduire l'impact environnemental d'une production, par exemple.
Ça, c'est le REF 3, c'est ça ?
Alors, ça rentre dans le cadre de REF 3. REF 3, c'est l'ambition régionale en matière de transition. On a été l'une des premières régions, à la fois au niveau national et au niveau européen, à se positionner sur cette question de la troisième révolution industrielle. Alors, quand on dit ça comme ça, ça peut paraître un concept un peu fumeux. En réalité, de manière extrêmement concrète, c'est comment on s'assure que notre économie soit de plus en plus décarbonée. Et ça passe par des investissements en matière énergétique, en matière évidemment de production industrielle. Ça passe aussi par de la sensibilisation de tous les acteurs régionaux qui peuvent être confrontés à ça. Et on a aujourd'hui une spécificité, c'est qu'on est une des régions les plus émettrices, de fait, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, grâce ou à cause de notre industrie. Bah disons que nous, on a décidé de partir d'un principe, c'est d'avoir une industrie forte dans notre région, c'est un atout, mais il faut les aider à effectivement s'adapter aux nouvelles contraintes environnementales. Et là aussi, ça passe par les circuits courts, comment on a une vraie, à chaque étape de la production, une vraie logique de réduction des émissions, comment on fait aussi en sorte qu'on puisse recycler, réutiliser. Et on voit aujourd'hui que ça a développé tout un pan entier de l'économie. Donc on peut faire aussi de l'économie avec de l'écologie. Et REF 3, c'est cette ambition-là.
Là, je vous rappelle que, du coup, on rappelle que vous siégez aussi à Compiègne, au conseil municipal de Compiègne, également à l'Aglo. La logistique, c'est les entreprises sont de plus en plus présentes dans notre territoire. Évidemment, ça crée des nuisances. Ils demandent, j'imagine, des fonds pour se développer à l'Europe. Comment vous faites est-ce que c'est pas dichotomique de fait de les financer et puis d'un point de vue local de se dire, bah, en fait, il faudrait peut-être réduire l'impact de.
Alors, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises de logistique qui bénéficient de fonds européens parce que encore une fois, il faut qu'il y ait une logique de production avec des machines qui produisent, qui créent de la richesse de la valeur ajoutée. Je suis pas sûr. Je préfère ne pas dire de bêtises, mais je sous toute réserve, et là, il faut faire preuve d'humilité dans la matière, parce que parfois on dit avec certitude des choses, et bon, les faits peuvent vous contredire. Il ne me semble pas que nous ayons financé des entreprises de ce type, sauf si c'est de la logistique à valeur ajoutée. On a aujourd'hui des domaines dans lesquels la logistique peut apporter une vraie valeur ajoutée. C'est pas seulement du terrain consommé pour très peu d'emplois. Et c'est ce que je dénonce souvent, c'est qu'effectivement la logistique dans les territoires, parfois, c'est beaucoup de terrain consommé, beaucoup de terres artificialisées pour très peu d'emplois et très peu de retombées économiques réelles. Mais on a aujourd'hui un secteur de la logistique qui est en train de se réinventer aussi. On a notamment dans le Nord une plateforme qui travaille, qui fait de la recherche, de l'innovation sur la logistique pour que ce soit la logistique la plus écologique possible, avec le moins de retombées négatives pour notre territoire. Parce que quoi qu'on en dise, on a besoin de logistique dans une économie telle qu'on la connaît, mondialisée, avec effectivement une consommation de plus en plus décorrélé du réel, donc sur Internet, avec Amazon et autres. Bon, il faut trouver l'équilibre. Bon, maintenant, une chose est certaine, c'est qu'un territoire ne peut pas concentrer sur son sol toutes les activités de logistique, parce que sinon, effectivement, c'est beaucoup de terres consommées, peu d'emplois créés, et effectivement, beaucoup de camions, parfois, qui nuisent à l'environnement et qui peuvent aussi apporter des nuisances sonores et autres, et environnementales en particulier. Mais voilà, il faut trouver cet équilibre et je pense que ça se trouve dès lors qu'on a une forme de solidarité entre les territoires, qu'on réfléchit à l'aménagement du territoire, comment on regarde sur les axes de transport qu'il puisse y avoir une juste répartition de l'effort, parce qu'encore une fois, la logistique, c'est un mal nécessaire et il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les acteurs. En revanche, il faut avoir une vraie réflexion stratégique.
Toujours sur le transport, évidemment, avec les frontières, la Belgique, la Hollande. Avant, on pouvait partir de Compiègne et arriver en Hollande par le train. La région a mis en concurrence les trains sur les barreaux régionaux. C'est la SNCF qui a remporté l'appel de marché d'offres. Est-ce que l'Europe finance aussi toute cette problématique des transports, puisque aujourd'hui, on ne peut pas aller à Lille de Compiègne sans passer par Paris ? Ou sinon, il faut passer à Saint-Quentin et
ça peut être un peu long. Alors, l'Europe finance évidemment la question des mobilités sous plein d'aspects. Par exemple, une partie du réseau de bus d'Amiens a été financée sur des fonds européens. On a beaucoup de circulation douce, donc toutes les voies vertes et toutes les voies cyclables, notamment les lycées de Compiègne, vont être connectées par une piste cyclable grâce aux fonds européens notamment. Donc, on voit qu'on peut financer des choses. Le canal Seine-Nord-Europe va être financé sur les fonds européens et demain, le barreau Gréoissy, en tout cas, le dossier va être déposé par SNCF Réseau. On espère que cette fois-ci, le dossier déposé permettra de que le projet soit financé. Donc oui, l'Union européenne finance la mobilité parce que, et les transports de manière générale, parce que oui, c'est un enjeu de développement territorial. Après, pour tout ce qui est de l'aménagement de notre réseau intérieur, en l'occurrence régional et national, là, ça incombe à l'État et aux collectivités, non la région. Donc ça, c'est à nous d'essayer de faire des efforts. Mais il faut savoir une chose, c'est que la région Hauts-de-France est la région qui a le réseau ferroviaire le plus dense au niveau national. Ce qui, du coup,
crée des problèmes.
Crée forcément des difficultés financières, puisqu'un tiers du budget régional est injecté dans les transports. Et on voit bien que c'est un enjeu qui est majeur, qui concerne le quotidien, mais qui, effectivement, nous oblige beaucoup d'un point de vue financier. Et nous, notre détermination, c'est de maintenir le maximum de lignes avec le meilleur service possible. Ça crée parfois des difficultés, parce qu'effectivement, la SNCF est aujourd'hui l'opérateur le plus, à la fois, longtemps monopolistique, évidemment, très longtemps le seul. Et ensuite, quand on ouvre les appels d'offres, ils sont aujourd'hui ceux qui sont les plus à même de répondre à un besoin à la fois exigeant en termes de service, et évidemment, avec tout ce que cela implique, régularité, évidemment, respect des horaires, etc., etc. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de mettre la pression sur notre prestataire, en l'occurrence la SNCF, pour qu'il réponde le mieux possible à nos exigences et le mieux possible aux exigences des citoyens. Exigences largement légitimes. C'est compliqué parce qu'on n'imagine pas, mais dès qu'il y a un incident dans un train, ça a un impact sur l'ensemble des autres trains. Dès que la gare du Nord aujourd'hui est l'une des gares les plus saturées, donc ça a un impact évidemment sur la qualité du service. Mais en tout cas, la région, et c'est la volonté que Xavier Bertrand dès le début du mandat, c'était vraiment de ne lâcher aucune ligne et considérer qu'aujourd'hui, les réseaux de bus pouvaient venir en appui, mais ne devaient pas se substituer aux lignes ferroviaires. Et c'est une ambition qui est toujours la nôtre aujourd'hui, avec parfois, effectivement, des dépenses que la région assume, qu'elle ne devrait pas assumer. Mais à partir du moment où ni l'État ni SNCF font les investissements, eh bien nous les assumons. Encore une fois, peut-être avons-nous tort de le faire, mais c'était dans notre slogan de campagne, c'est quelque chose qui illustre notre travail au quotidien, c'est qu'on se bat, y compris parfois en allant plus loin que ce qu'on devrait faire, mais là aussi, personne ne comprendrait qu'on se retranche derrière les autres en disant « mais c'est pas à nous de le faire, c'est à eux ». Mais en attendant, ceux qui payent cash l'inefficacité, c'est les citoyens. Donc nous, on essaye de répondre au mieux en allant au maximum de nos capacités financières et de nos compétences.
La région aide également au déplacement entre le domicile et le travail avec une aide de 30 euros par mois, sous condition, il faut aller sur le site d'aide de la région. Est-ce que justement, d'un point de vue REF 3, est-ce que aider les gens à prendre leur voiture, même si on les aide financièrement, est-ce que c'est pas contre l'environnement plutôt ?
On a une ambition environnementale qui est très forte. Maintenant, moi, j'aurais beaucoup de mal à expliquer à un gamin qui vit à Étré-Saint-Denis, qui doit aller travailler à 20 km, qui n'a pas de moyen de prendre le train, non, on ne va pas t'aider. Il y a une réalité, il faut essayer d'être conscient. Si on a évidemment une ambition ferroviaire, évidemment une ambition de transport en commun, la réalité, c'est qu'on vit dans un département qui est rural et que cette ruralité, il ne faut pas la laisser crever. On a parfois, et ça c'est un vrai sujet de combat pour nous aussi à la région, c'est on a pendant longtemps considéré que tout devait procéder des métropoles. On appelait ça la métropolisation et on mettait tous les moyens sur l'aménagement des métropoles, l'aménagement économique, l'aménagement, les grandes infrastructures, les grands services, tout devait être concentré dans les villes. On constate aujourd'hui que c'est limité, les gens ont envie de vivre ailleurs qu'en plein centre-ville, c'est une réalité. On peut dire que c'est pas bien, hein, mais la réalité c'est que c'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait une logique différente, il faut qu'on aménage de manière plus harmonieuse le territoire, qu'on trouve des services dans le monde rural, qu'on soit aidé dans le monde rural, qu'on ait évidemment la même qualité de vie dans le monde rural que dans le monde urbain. Et donc, nous, notre rôle, c'est ça, c'est cet équilibre territorial et qu'on n'oublie personne.
Donc, c'est une aide en attendant que ça aille mieux d'un point de vue transport collectif.
Que ça aille mieux et puis parfois, il n'y aura pas de solution collectif parce que pas assez de monde, parce que le service serait évidemment, encore une fois, inefficace dans le sens où on mettrait beaucoup d'argent pour finalement des solutions qui seraient plus pertinentes si on ciblait la personne, et c'est ce qu'on fait avec cette aide individuelle. Et nous, notre rôle, c'est effectivement d'essayer de faire du sur-mesure, du coût humain. C'est pas évident. Évidemment qu'il y a des formes de contradictions dans les prises de décision publique, dans le sens où on est obligé de le faire pour répondre à un besoin. Et encore une fois, si le Front National progresse, c'est que pendant longtemps, on a aussi laissé des territoires à l'abandon, qu'on n'a pas forcément répondu aux besoins et qu'on a, méprisé ces parties du territoire. Nous, on veut mépriser personne et je crois qu'en l'occurrence, le monde rural a aussi des choses à apporter. Les gens, ils sont heureux, ils ont pas, y a aucune raison qu'on les punisse de vivre dans le monde rural. Au contraire, on est là pour essayer de faire en sorte que les spécificités françaises, cette espèce de grande partie du territoire qui est maillée de petits villages dans lesquels il y a une vraie vie, dans lesquels lesquels il y a une vie culturelle, une vie sociale, une solidarité qu'on ne retrouve pas en ville, eh bien, faut aussi l'accompagner.
Alors, on parle également de mobilité des jeunes, puisque les jeunes qui veulent faire des stages en Europe, c'est également possible de les aider sur du déplacement. Alors, pour les étudiants du TC, c'est plutôt facile. Hein. En général, ils ont l'habitude de faire des stages à l'étranger. Mais là, ça peut aussi s'appliquer à des gens qui sont dans d'autres secteurs que dans les secteurs de l'ingénierie.
Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a les aides qui existent. Vous les avez citées, Erasmus. Et puis la bourse, on a créé une bourse Mermoz dans la région Hauts-de-France qui permet de faire cette mobilité en dehors, effectivement, de l'Europe. Mais le but, c'est vraiment d'accompagner les étudiants parce qu'on sait très bien qu'avoir un parcours de mobilité, c'est-à-dire partir à l'étranger dans sa scolarité, c'est un atout pour ensuite son insertion professionnelle. Alors pour les ingénieurs, c'est obligatoire, hein, c'est inscrit dans... c'est les conditions pour obtenir son diplôme. Dans d'autres formations, d'autres cursus, ça n'est pas le cas. Mais nous, on estime que, et c'est pour ça qu'on met en place des événements, de la communication en direction des étudiants, on estime que c'est nécessaire et que c'est un atout dans la scolarité. Par contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs freins. Il y a un frein financier, parfois. Et donc là, nous, on met en place la bourse Mermoz. Et parfois, il y a un frein psychologique, en disant, mais c'est pas fait pour moi. Je parle pas bien anglais, je parle pas bien italien, je parle pas bien allemand. Mes parents m'ont jamais incité à voyager, ils n'avaient peut-être pas les moyens de m'inciter à voyager. Nous, on est là pour débloquer aussi le frein psychologique, en leur disant, mais c'est possible, tu seras pas tout seul, on va t'aider, on va t'accompagner, on va te financer. Et tu verras que ce sera utile pour tes études. Après tes études, quand tu voudras trouver un travail, eh ben, généralement, avoir la petite ligne internationale sur un CV, ça compte. Et même au-delà de la ligne sur le CV, c'est quand même une ouverture d'esprit, c'est se confronter à l'autre, c'est toujours utile dans un parcours de vie.
Ouais, c'est aussi comprendre qu'est-ce que c'est d'être européen.
C'est qu'est-ce que c'est qu'être européen, qu'est-ce que c'est aussi dans un monde qui est très mondialisé, où voilà, se confronter à l'autre, confronter à d'autres cultures, c'est quand même bien. Et généralement, quand on apprend à connaître l'autre, avec un grand A, ben, on s'accepte mieux soi-même et on accepte mieux les autres sur son territoire. Et je crois que vraiment l'ouverture d'esprit qu'apporte la mobilité, les voyages, c'est quelque chose qui est assez irremplaçable.
On rappelle, on a invité Daniel Leca, vice-président en charge de l'Europe, de la stratégie territoriale et des politiques contractuelles. On écoute tout de suite un extrait musical et on se retrouve juste après.
Qui rêve encore de l'Amérique? Ce shopping mall pas démocratique. Tout est si différent maintenant. Mais qui peut encore rêver tout court quand tout est flippant aux alentours? Tout est si différent maintenant. En attendant bien patiemment la fin du monde. Quelle liberté d'être condamné après ces années de culpabilité. Agissons enfin sans conséquence. Salut patron, on se verra en vacances. Si différent maintenant, en attendant bien patiemment la fin du monde. Tout est si différent maintenant, en attendant bien patiemment. On finira au musée dans un décor. Et sur la pancarte en gros caractère, homme en terrasse buvant un verre. Et qui attend bien patiemment la fin de son air.
fréquentais la beauté tout le mois de juillet. Pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoré, qui nous jette au panier, pleurniche en route de la tour. L'amour qui sait nous tromper, jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien gardé. Fréquenter la santé, chaque matin le lait, cœur humide, je noie l'amour. J'ai fréquenté la santé, par les champs, les forêts, partout où me menait le jour. Derrière le bal aux forêts, nuit parmi les genêts, je suivais la cave à l'amour. J'ai fréquenté la santé, les éboires y mangeaient pour les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. Un mois de janvier, nuit et jour, il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté sur la baie, à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps, sans regret, sans remords, sous la cascade qu'elle adore. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté, je n'en ai rien gardé.
Murat avec ce titre, j'ai fréquenté la beauté. Juste avant, c'était un extrait, alors j'ai plus le morceau en tête, on vous le donnera, mais c'est un nouveau titre qui rentre dans la programmation de Graphite. Est-ce que je peux le retrouver vite fait? Je pense que je peux le retrouver. On est toujours en compagnie de Daniel Leca pour parler de l'Europe. Et le morceau qu'on a écouté, c'était le nouvel album de Séverin qui s'appelle Nouveau Dinosaure. C'est sorti cette année, c'est vraiment très beau. Et en parlant de sorties culturelles et musicales, hein, dimanche 3 décembre, il y a le concert celtique qui aura lieu à l'église Saint-Martin de Venette. Encore une fois, on a signé la charte de laïcité, hein, je suis désolé. Ça tombe aujourd'hui. Entrée et participation libre, c'est organisé par la ville de Venette. Ça s'appelle Christmas and Winter Song. Et donc c'est un ensemble celtique, irish, qui sera présent ce dimanche à 16h. On revient un petit peu sur l'Europe, mais également sur un peu ce qui se passe également à Compiègne. Vous êtes prêt pour 2026? C'est quand les élections municipales?
C'est mars 2026, effectivement.
Comment on arrive à articuler le travail à l'Europe, le travail à la région? Pas encore à l'Europe, non. Et le travail en local.
C'est très complémentaire d'une part, parce que bon, voilà, les sujets que je suis à la région, c'est des sujets qui moi, me permettent aussi
de voir ce qui se passe en local.
Qui me permettent de voir ce qu'il y a en local, d'aider les projets au niveau local et de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Pour comparer, et quand on se compare, on est forcément meilleur. Il ne faut jamais regarder les projets ou regarder son territoire uniquement le nez dans le guidon, parce que, encore une fois, d'autres font mieux, font parfois moins bien, mais en tout cas, il y a toujours des leçons à tirer. Donc moi, j'aime bien cet aller-retour permanent entre le local, Compiègne, l'agglomération, et puis prendre du recul, regarder ce qui se passe en région, et au-delà d'ailleurs. Et c'est là aussi l'intérêt de l'Europe, c'est que ça permet de voir aussi des réussites, des pépites dans les territoires, et de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas nous, chez nous? Donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est très utile, en fait, cet aller-retour. Et deuxièmement, moi, ça, j'ai une équipe à la fois ici à Compiègne avec mes colistiers qui sont très présents, très mobilisés, sont partout et je les remercie. Je ne les remercierai jamais assez. On ne fait jamais les choses bien seul. Et évidemment, moi, j'essaie d'être présent partout aussi, même si ce n'est pas toujours évident. Et ensuite, à la région, oui, j'ai une très belle équipe à la fois au groupe et puis parmi les services de la région qui font un boulot extraordinaire. Et moi, je le dis, on a la chance d'avoir une administration territoriale qui fonctionne très bien au niveau régional, avec des gens très compétents, très investis et qui font ce travail du quotidien, d'animation, d'instruction des dossiers. Et nous, on est là pour être à la fois les visages, donner l'impulsion politique, faire des choix politiques. Et ensuite, heureusement qu'on est entouré par des gens très compétents qui font le travail du quotidien. Moi, on n'en parle pas suffisamment et pas assez. Moi, j'aime bien les mettre en lumière de temps en temps.
Là, le fait d'avoir passé tant de temps à la région, est-ce que ça permet de pallier au fait de l'âge, puisque souvent on peut reprocher que vous étiez jeune pour avoir être maire de la mairie de Compiègne, par exemple, vous avez moins de 40 ans. Est-ce que ça donne de la bouteille
Oui, oui. Alors déjà, malheureusement, c'est une maladie dont on guérit, puisque ma première candidature, effectivement, à Compiègne, j'ai été élu à 30 ans à la région. Je suis devenu vice-président à 34 ans. J'étais candidat à la mairie de Compiègne à 34 ans aussi. Bon. La prochaine fois, j'en aurai 39. Voilà, on pourra dire que ça y est, j'ai peut-être pris un peu de bouteille. Mais plaisanterie mise à part, au-delà de l'âge, c'est vrai, il y a des questions d'expérience. Ouais, et moi, c'est vrai que d'être vice-président de région maintenant depuis 2020, bon, ça va faire 3 ans et demi bientôt. C'est une expérience. C'est-à-dire, je vois beaucoup de choses passer. Ça donne aussi un peu de modestie. Parfois, quand on est opposant et seulement opposant, on a l'impression que tout est possible. Il suffit d'appuyer sur un bouton et ça se fait. Évidemment que ce n'est pas aussi simple que ça. Et qu'il faut avoir la modestie de se dire que c'est du travail, que c'est du temps, qu'après, on fait des choix politiques,
oui,
ils sont respectables. Et moi, j'ai évidemment une volonté politique. J'ai évidemment des options stratégiques sans doute différentes de ce qui a été fait. Mais je dois reconnaître aussi que des projets que j'avais proposés ont été réalisés. Je ne vais pas aller les critiquer sous prétexte qu'il faut être critique quand on n'est pas majoritaire. Donc voilà, c'est aussi ça que ça a appris le fait d'avoir un mandat régional. C'est que il faut être nuancé, que monter des projets, ce n'est pas évident. Et qu'il faut aussi un peu d'expérience. Et c'est vrai que la région m'apporte ce regard différent, cette expérience. Et je crois aussi que ça montre aux habitants, en tout cas, que je suis capable d'autre chose que de m'opposer. Voilà, je suis capable de construire des projets, de les mener à bien, de le faire dans le cadre d'une majorité, de travailler en équipe, y compris d'ailleurs avec des membres de la majorité de Philippe Marigny, avec lesquels on travaille main dans la main pour la défense des projets locaux. Et là-dessus, je crois que personne ne pourra dire que je n'ai pas aidé les projets de Compiègne, y compris je pouvais avoir quelques réserves, mais à partir du moment où la majorité elle est démocratiquement élue, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que les projets puissent aboutir dans l'intérêt du territoire. Donc je pense le faire bien, et je fais le maximum en tout cas pour ça, et je sais aussi que ce travail-là sera mis à mon profit quand il faudra revenir devant les électeurs pour leur expliquer ce que j'ai envie de faire pour l'avenir.
Là, s'il y a un jeune qui nous écoute, qui veut son agent politique, quel est le conseil que vous donneriez? C'est de commencer par du local, de tenter le local, et puis d'aller plutôt sur des échelles intermédiaires?
Alors moi, j'ai commencé par l'inverse, j'ai commencé par le national. J'ai travaillé avec Jean-Louis Borloo, c'est lui qui m'a donné ma chance et qui m'a permis de découvrir l'engagement politique par les partis politiques. Moi, je pense qu'un parti politique, même si c'est pas la mode de le dire, c'est utile. Ça apporte une cohérence, ça vous apprend à travailler, à travailler en collectif, à travailler en équipe, de aussi vous donner une idéologie au bon sens du terme, c'est-à-dire des grandes idées.
Construction politique. Quoi.
Exactement. Et c'est une école, entre guillemets. Ça vous forme, ça vous apprend à la fois à raisonner, à travailler, comme je le disais, en équipe, à penser la politique avec des idées et des modes d'action aussi qui sont importants. Militantisme, ça compte. Maintenant, on n'est pas tous câblés de la même manière, on n'a pas tous envie de faire de la politique au niveau national, on n'est pas tous motivés, mobilisés par des grands sujets nationaux. Moi, c'est vrai que les grandes questions écologiques, les grandes questions économiques, les questions sociales, l'école, moi, c'est des sujets qui me préoccupent beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Donc il faudrait effectivement que la classe politique aussi au niveau national se mobilise sur ces sujets. Mais il y en a d'autres qui sont plutôt attachés à l'idée que ça passe pas d'abord par le quotidien et par l'action municipale. Maintenant que je suis élu local, je le vois à quel point beaucoup de choses peuvent être décidées au niveau local qui changent le quotidien des gens. Donc moi, je suis venu au local aujourd'hui, j'adore ça. Si je devais donner un conseil à un jeune qui a envie de s'engager... D'abord, qu'il essaye d'être à peu près au clair sur ce qu'il a envie, quelles sont les idées qui sont les siennes, qu'il prenne le temps de comparer un peu, voir un peu qui sont les gens qui se présentent. Pas s'arrêter uniquement à l'image qu'on peut avoir de certains élus. Je pense notamment, malheureusement, aujourd'hui au Rassemblement National, qui attire parce qu'ils partent d'une espèce de contestation permanente de tout ce qui ne va pas. Mais c'est facile de contester. Le plus dur, c'est de construire les idées, de construire les projets. Comparer un peu. Et puis après, de se lancer en allant voir celui ou celle qui leur paraît le plus proche d'eux. Et généralement, quand les gens sont bien construits intellectuellement, là je parle des élus, quand on voit un jeune qui vient vous voir en disant « moi j'ai envie de m'investir », c'est déjà tellement rare aujourd'hui que on est très heureux quand ça arrive, et quand ça arrive, généralement, on essaye de les prendre par la main et de les mobiliser, de les motiver. J'ai encore vu quelqu'un ce week-end qui est venu me voir en me disant « j'ai envie de m'engager, je ne savais pas trop comment faire, j'ai regardé, j'ai comparé, c'est plutôt vous que j'ai envie de soutenir ». Je vais l'impliquer avec moi, je vais lui montrer comment ça marche, je vais lui présenter les gens de mon équipe, et puis ensuite, à lui de voir comment son investissement va se déployer dans le temps. C'est ça aussi qui est beau avec l'engagement politique, c'est qu'on peut, commencer d'abord par peu, puis ensuite s'investir de plus en plus, parfois aussi arrêter, pas de, encore une fois, il n'y a pas de problème. Nous, on est, les gens qui font de la politique, objectivement, et là, je mets les gens de droite, de gauche, du centre, dans le même panier, c'est que c'est quand même de l'investissement, c'est aussi des sacrifices, c'est beaucoup de temps passé, on y trouve du plaisir, évidemment, sinon on ne le ferait pas. Mais moi, je trouve que l'engagement est aussi une notion, quelque chose qui manque aujourd'hui dans notre société. L'engagement pour les autres, l'engagement même dans son entreprise, l'engagement pour sa vie personnelle, familiale. Enfin, en gros, la notion d'engagement aujourd'hui doit revenir au cœur des, à mon avis, au cœur des préoccupations et au cœur d'ailleurs des politiques publiques, parce qu'on en a besoin. Notre pays tient grâce à ça. Et moi, je le dis aux jeunes, venez à l'engagement politique. Vous y trouverez sans doute des choses très intéressantes, parfois des choses un peu ingrates, mais c'est le jeu. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis très attentif à ce que, justement, dans les équipes qui m'entourent, il y a toujours des gens qui viennent, qui découvrent. Et quand je dis jeune, ça peut être un jeune par l'âge, mais aussi un jeune par l'engagement, quelqu'un qui découvre à 50 ans, 60 ans, qu'il a envie de s'engager, qu'il ne l'a jamais fait, et parfois plus vert, plus jeune, plus dynamique dans sa tête que je ne le suis, moi qui ai déjà quasiment 10 ans de mandat dans les pattes.
Alors justement, si vous avez vu l'Europe, la région, est-ce que de revenir à des choses plus terre-à-terre, demain, si vous êtes élu à la mairie de Compiègne, on vous parlera des crottes de chiens, des arbres à couper.
On m'en parle déjà, et ça me va bien. Non mais c'est les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je crois quand même que le quotidien, la vie des gens se change à tous les niveaux, au niveau local, parce que effectivement, avoir une ligne de bus qui marche pas, qui est pas adaptée, qui dysfonctionne, avoir des trottoirs qui sont pas adaptés à la mobilité des personnes... des personnes à mobilité réduite qui... ce sont des sujets qui changent le quotidien des gens. Et puis, il faut intégrer la dimension régionale, nationale, européenne. Bon, voilà, c'est un aller-retour permanent. Et je pense pour le coup, et moi j'y trouve mon équilibre dans le fait de répondre aux deux. On a tous des étapes dans la vie. Moi j'ai envie aujourd'hui, effectivement, de me consacrer d'abord au local, d'abord à Compiègne, de le faire évidemment avec mon prisme régional. Viendra peut-être un temps où je me serai intéressé à l'idée d'avoir des mandats nationaux. Pour l'instant, ce n'est clairement pas mon ambition.
Là, si vous êtes élu demain à la mairie de Compiègne, vous lâcherez votre poste à la région ?
Ça va dépendre en réalité pour une raison simple, c'est que je trouve quand même que d'avoir une complémentarité municipale régionale, ça apporte à la fois de la visibilité au territoire dans lequel on est élu, en l'occurrence ça apporterait une visibilité à Compiègne, ce serait une capacité supplémentaire de défendre notre territoire auprès de la région, et c'est aussi une manière, de, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas garder le nez uniquement dans le guidon de son territoire et de prendre un peu de hauteur. Moi je crois vraiment que la comparaison, le fait de regarder ce qui se fait ailleurs et donc d'en tirer des leçons, c'est quelque chose qui est très précieux. Et je pense qu'on ne mène pas de bonne politique quand on pense qu'on a raison tout seul et qu'on a raison dans son coin. Ça marche pas. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction, ça ne fonctionne pas. Et je crois vraiment que celles et ceux qui veulent avoir des responsabilités politiques municipales de premier plan devraient d'abord se dire, est-ce que je suis assez armé à la fois par la connaissance administrative, etc., connaissance locale, mais aussi, est-ce que je me suis donné la peine de voir ce qui se passait ailleurs pour en tirer des leçons pour moi-même. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très utile. Donc, je prendrai la décision en temps utile si, par bonheur, les Compiègnois me font confiance.
L'équipe de campagne est déjà constituée ?
L'équipe de campagne se constitue petit à petit. Mon rôle, c'est d'être maximum mobilisé, et ce, depuis le premier jour de mon mandat municipal, ce que je crois être le cas. Je pense le faire de manière très respectueuse des uns et des autres. Le faire pour montrer aux Compiègnois que je n'étais pas une comète qui passait. Je suis élu municipal depuis maintenant 3 ans et demi. Ce travail, je le fais au quotidien avec beaucoup de plaisir. Je suis au maximum au plus près des événements qui sont organisés à Compiègne. Je vois beaucoup de monde en public et en privé pour essayer aussi de convaincre que je suis le bon candidat pour l'avenir de Compiègne. Et bien sûr que chaque jour que je rencontre quelqu'un, je me dis, est-ce que cette personne serait un atout pour une équipe demain si elle devait gérer Compiègne ? Donc ça se constitue tous les jours.
Les grandes dates pour l'Europe, c'est les élections européennes le 6 et 9 juin prochain. Il y a toutes les informations sur elections@europa.ue où vous avez des informations pour comment voter. C'est souvent une élection où il y a très peu de personnes qui vont voter. Vous pouvez aller voir les résultats des élections passées. Également, en plus de ça, il y a un petit peu le Front National essaie de positionner ses pions.
Évidemment,
c'est un peu le risque. Et quelles sont les dates européennes pour la région qui sont importantes ?
Alors nous, aujourd'hui, la programmation est lancée. Donc on est en plein dans la mise en œuvre du programme opérationnel, donc de l'utilisation des fonds sur la prochaine programmation. Donc on est à fond dedans. Les dates, c'est tous les jours. Tous les jours pour déposer les dossiers, tous les jours pour solliciter la région pour bénéficier des fonds européens. Et nous, ensuite, on a un dialogue permanent avec l'État parce qu'on a des enjeux importants sur quels sont les projets qu'on veut voir financer, comment on peut articuler. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est assez frappant. France 2030, les conséquences du Covid, il y a une grande partie qui est financée sur fonds européens. Personne ne sait. Mais 60% est financé sur fonds européens. Bien là, nous, on est obligé de savoir quels sont les projets qui sont financés sur fonds européens pour pas que nous, on remette de l'argent européen sur ces projets. Donc, vous voyez, c'est des sujets qui sont importants. Et nous, on joue la transparence. C'est pour ça que, merci de nous donner l'occasion de le dire, l'argent de l'Europe ruisselle dans nos territoires, est utile pour nos projets territoriaux, là où parfois, effectivement, certains ne jouent pas le jeu et ont beau jeu de dire que c'est la faute de l'Europe sur à peu près tout. Souvent, l'Europe, elle a les épaules larges, mais quand elle fait les choses bien, il faut le dire aussi.
C'est vrai que c'est pas le sujet le plus sexy en termes de radio. Je sais pas si on a perdu des auditeurs, mais c'est vrai que l'Europe, c'est toujours assez lointain, c'est assez technocratique avec des termes, etc. Le rendre accessible à tout le monde, c'est aussi un risque, un pari.
C'est un jeu. Il faut prendre le risque, il faut jouer le jeu. Moi, j'ai tendance à dire que malheureusement, le débat européen est toujours escamoté au niveau national parce qu'effectivement, on dit toujours que c'est la faute à l'Europe. On envoie souvent aussi au Parlement européen des gens qui sont recalés et qui sont recasés et qui font que ce sont des retraités de la vie politique française qui se retrouvent au Parlement européen pour avoir une seconde jeunesse. Ben moi, je pense que le débat européen mérite mieux, qu'il faut qu'on soit en capacité à la fois de montrer l'Europe au concret, l'Europe au réel, qu'est-ce qu'elle fait de bien et quand ça marche bien, il faut le dire, qu'est-ce qui change dans notre quotidien grâce à l'Europe et surtout de rappeler pourquoi l'Europe, eh bien, elle permet de faire face aux grands géants mondiaux que sont la Chine, que sont l'Inde, que sont les grands ensembles qui sont en train d'émerger et que sans l'Europe, on serait bien fragile avec notre petit pays de 65 millions d'habitants.
Qui allez-vous recaser à l'Europe pour l'UDI ?
On va en débattre. Et déjà, d'une part, on est en train de travailler sur le projet. Il y a un gros travail qui est mené aujourd'hui au niveau national avec l'ensemble des élus sur le territoire et avec les militants. Une fois que ce travail de projet sera établi, on prendra notre décision au début d'année 2024 pour choisir à la fois qui serait notre tête de liste si on décidait de mener une liste tout seul ou alors de s'allier avec celui ou celle qui incarnera le mieux les idées européennes qui sont les nôtres. Une chose est certaine, c'est qu'on a une vision exigeante de l'Europe. On est des Européens convaincus. On n'est pas des Eurobéas, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses à changer en Europe, mais en revanche, on défendra toujours une Europe si elle est efficace et si elle répond aux préoccupations des habitants. Donc on y travaille et on verra ensuite qui portera cette ambition européenne sur une liste, espérons-le, qui sera la plus européenne possible, convaincue et exigeante.
Ouais, le gros intérêt, c'est que vous allez, à l'Europe, vous allez pouvoir traiter de l'argent qui va redescendre en région et qui va réinfuser dans les territoires.
Tout à l'heure, on parlait de choses très concrètes, c'est que quand on discute des budgets européens, c'est qu'on choisit les curseurs, les priorités. Et en l'occurrence, on a la question de la politique de cohésion, c'est quelle est la part du budget européen qui va aller dans les territoires et qui va financer des projets concrets. Et donc ça, c'est aussi un enjeu que nous devons défendre.
Daniel Leca, merci beaucoup pour cette matinée. On retrouve cette émission en podcast sur www.graphite.net. Et si vous voulez faire un tour sur les choses qui se passent en région Hauts-de-France, vous allez sur europe-en-hauts-de-france.ue. C'est pas l'adresse la plus simple, mais on mettra ça sur la page de Facebook de la radio et sur le podcast. Merci beaucoup, très bonne journée. Et pour la météo ce matin, couvrez-vous, il fait un peu froid, 3 degrés avec évidemment un peu de soleil cet après-midi, enfin évidemment. C'est pas souvent, mais il y aura un peu de soleil cet après-midi. Très bonne journée, merci.
Merci.